Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 17 mars 2026. Alors l'actualité, bah écoutez, en ce début de semaine, c'est difficile de passer à côté ou de parler d'autre chose. En tout cas, les médias sont vraiment focalisés à la fois sur les résultats du premier tour des municipales et puis bien évidemment aussi sur la guerre au Proche et Moyen-Orient. Donc on va quand même parler de ces deux gros sujets, pas mal. Mais on a trouvé quand même d'autres petites pépites parce qu'il se passe d'autres choses dans le monde, et oui. Et donc, pour éclairer un petit peu ces résultats des municipales, on va tout d'abord donner la parole aux médias Contre-Attaque qui propose un contrepoint sur ce qu'on entend partout et qui s'intéresse au score de l'extrême droite au premier tour donc, de ces municipales. Et pour eux, donc, malgré ce que prétend la grande presse, le Rassemblement National n'a pas fait carton plein ni des scores très forts qu'il visait pourtant. Et malgré donc, évidemment, l'énorme soutien médiatique et politique continu dont il a bénéficié, notamment sur des grandes chaînes privées. Et ce, alors que le RN espérait faire de ses municipales un tremplin pour les présidentielles. Donc bon, vous me direz, c'est un peu le verre à moitié vin, à moitié plein et à moitié vide. Mais je trouvais ça intéressant quand même de... d'analyser les résultats, justement, d'une autre manière. Les scores du RN, donc, pour Contre-Attaque, sont particulièrement bas dans les plus grandes villes du pays. C'est même, pour certains, on peut même parler de fiasco, hein. Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Grenoble, tous les candidats RN sont en dessous de 8%. Donc, autant de conseils municipaux dont l'extrême droite sera absente, alors qu'elle y figurait par le passé, hein, et que les élections européennes en 2024 lui avaient, par exemple, permis d'obtenir partout des scores à deux chiffres, à l'exception de Paris. Le RN échoue à exister donc dans les grandes métropoles, à l'exception du Sud-Est, hein, Nice, Marseille, Toulon et Nîmes, qui sont pas scellés encore, mais ils ont fait des bons scores. Et c'est effectivement de ces grandes villes dont on entend beaucoup parler. Donc, pour Contre-Attaque, le RN se sert de ces résultats pour cacher ses reculs globaux. D'ailleurs, sans même être sûr de pouvoir l'emporter dans certaines de ces villes. En tout, sur 42 villes de plus de 100 000 habitants, donc les plutôt grandes villes, dont une seule est dirigée par le RN, hein, c'est Perpignan, où Louis Alliot a été d'ailleurs réélu au premier tour, le parti ne sera donc représenté que dans 20 de ses seconds tours, ce qui fait mieux que 2020, mais on vous rappelle que 2020, c'était l'année de la pandémie. Donc faire des comparaisons, c'est difficile. Par contre, c'est nettement moins bien qu'en 2014, qui serait l'année de référence. Dans la grande majorité de ces 42 villes, donc, le score du RN régresse par rapport à 2014, ce qui est, on pourrait le voir, comme un échec politique net, bien que dans la grande presse, notamment portée par les milliardaires, on essaye de l'atténuer ou de la dissimuler en parlant de poussée du RN, et donc, je vous le rappelle, en limitant, justement, il compare les résultats de cette année à ceux de 2020. Si on va dans le journal Reporter, où il y a aussi une grande colonne à la une pour analyser ces municipales, justement, voici comment on analyse pour tout d'abord ce qui est du résultat du RN. Donc à la tête de 17 communes depuis 2020, quasiment tous les maires du RN ont été réélus dès le premier tour. Ce qui peut être un succès quand même pour eux, où ils sont en passe de l'être au second tour, ce 22 mars. Donc Louis Alliot, on en a déjà parlé, hein, c'est la seule ville de plus de 100 000 habitants qui est menée à l'heure actuelle par un maire du RN, réélu avec 50,61% des voix. Dans des plus petites communes comme Hénin-Beaumont, Bruay-la-Buissière, c'est dans le Pas-de-Calais, Hayange en Moselle, Moissac dans le Tarn-et-Garonne ou Beaucaire, donc à côté de chez nous, ou encore Le Pontet aussi dans le Vaucluse, les édiles du RN sont réélus au premier tour, la plupart n'ayant affronté qu'un seul autre candidat, donc des villes qui y restent. Alors Marseille, vous le savez, c'est une grosse bataille qui s'annonce, hein. Marseille qui avait basculé à gauche en 2020 Après 25 ans de gouvernance de la droite, le maire sortant, Benoît Payan, est au coude à coude avec le candidat d'extrême droite du RN. Donc c'est contre Franck Alizio. Hein. Payan, il est à 36,70%. Franck Alizio à 35,02%. Donc c'est vraiment 1%. Et bah, du coup, c'est effectivement, là encore, le jeu des batailles et des alliances ou pas avec les Insoumis, par exemple, qui vont, se jouer toute cette semaine. Hein. L'Insoumis Sébastien Delogu, qui a obtenu presque 12% des voix, déclarait dans un communiqué tendre la main à Benoît Payan pour essayer au second tour de faire un front antifasciste, pour empêcher le RN de conquérir la ville. Devant le refus, eh bien justement, de Payan, Sébastien Delogu a dénoncé une position irresponsable qui pourrait donner les clés de Marseille au RN. Mis à part Marseille et Nice, deux autres villes étaient dans le viseur du parti de Marine Le Pen, à savoir Toulon et Nîmes. Pour Toulon, la candidate Laure Lavalette, avec 42,05% des voix, arrive largement en tête hein, au premier tour face à la sortante, donc la maire sortante. Même constat à Nîmes, où le parti, conduit par Julien Sanchez, termine en tête avec 30,39%. Mais là, il est suivi de très près par le candidat de l'Union de la gauche, Vincent Bouget, 30,05%. Deux nouvelles conquêtes à noter pour le RN, Nomexy, une commune dans les Vosges, Cagnes-sur-Mer, remportée par le député Brian Masson. Des victoires possibles au deuxième tour, il y a Carcassonne, avec Christophe Barthès, candidat notamment climato-sceptique, qui est arrivé légèrement en tête au premier tour, face à la liste d'hiver droite. Et aussi, c'est tout pour les exemples. Alors que le RN aura donc raflé 21 communes au premier tour, 70 communes risqueraient de basculer à l'extrême droite le 22 mars. Pour la gauche, il s'agira donc pour les différents partis de compter les points et d'essayer de comprendre quelle stratégie sera la plus efficace justement pour l'emporter au second tour. Alors maintenant, on va aller voir justement du côté des résultats des Insoumis. Là aussi, c'est une grosse poussée, ce qui est une première hein, pour ce parti traditionnellement très populaire au niveau national, mais peu implanté localement. D'ailleurs, le coordinateur des Insoumis, Manuel Bompard, saluait ce 15 mars la progression remarquable de LFI au cours de ce scrutin municipal. Ainsi, le parti a remporté dès le premier tour la ville de Saint-Denis, hein, ce qui n'est pas rien, dans le 93, avec 50,77% des voix pour Bali Bakayoko, face au maire socialiste sortant Mathieu Hanotin. D'autres bons scores pour les Insoumis à Roubaix, 46%, presque 47% des suffrages exprimés pour David Guiraud. À La Courneuve, toujours dans le 93, avec Ali Diouara, avec 38%. Lille, où c'est Lawaria Hadouche qui a gagné avec 23,36%. Et à Limoges, Damien Modèle avec 25%. D'ailleurs, à Limoges, les candidats insoumis et socialistes ont déjà annoncé fusionner leurs listes respectives en vue du deuxième tour. À Toulouse, le candidat LFI François Picmal a également entamé des discussions avec la liste d'union PS écologiste pour tenter de ravir la mairie à l'édile qui sort, qui lui divers droite, Jean-Luc Moudinc. Mais il y a du rififi aussi, donc les infos sont peut-être déjà obsolètes, hein, puisque là, il y a des déclarations qui sortent toutes les heures. Face à la percée du RN, en tout cas, et de ses alliés, dans de nombreuses communes dès le premier tour, malgré les affrontements et invectives durant la campagne entre les deux partis, s'ils ne veulent pas voir justement des villes tomber entre les mains de l'extrême droite, les candidats socialistes doivent désormais composer avec les insoumis dans de nombreuses villes, par exemple Lyon ou Marseille, ou l'inverse, à Limoges, dont je vous le disais, où là c'est les insoumis ne pourront pas gagner sans les voix justement des socialistes. Voilà. Et pour clore cette séquence municipale, on peut quand même noter une autre grosse tendance. Eh bien, ce sont les listes citoyennes, participatives, on les appelle un peu comme elle veut. En tout cas, des listes qui ne sont pas portées derrière la figure d'une personne, mais plutôt qui essayent de ramener une démocratie un petit peu plus locale et participative. Eh bien, ce premier tour des municipales a donné lieu à des très bons résultats pour des listes citoyennes. C'est un premier bilan, on n'a pas encore tous les chiffres, mais qui a été communiqué justement par la coopérative Fréquence Commune, qui s'intéresse à ce mouvement politique, ces mouvements. Eh bien, la coopérative donc Fréquence Commune a comptabilisé 126 listes citoyennes qui ont été élues dès le premier tour et 171 autres qualifiées, elles, pour le second tour. Alors qu'en 2020, ce mouvement comptabilisait seulement 66 victoires. Donc c'est vraiment un petit élan de fond qui se passe principalement dans des petites communes, notamment rurales, mais pas que. Alors dans le détail, certaines municipalités sortantes sont reconduites, hein, parfois d'ailleurs sans même une liste concurrente. et aussi des listes citoyennes sont venues à l'emporter dans de nouvelles villes, principalement des petites ou très petites communes. On peut citer Putange-le-Lac, c'est dans l'Orne, Cré, dans la Drôme, Lens en Vercors, en Isère, ou Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique pour les nouvelles villes. Et puis chez nous, on va quand même parler de Val-des-Goiles, hein, anciennement Notre-Dame-de-la-Rouvière et Val-Rogue, et l'Espérou, où les électeurs ont joué la continuité en revotant pour la liste du maire sortant Joël Gauthier, donc avec un score de presque 70% pour Joël Gauthier, face à la liste qui était montée cette année par Philippe Fougeret. Voilà. À Poitiers, c'est la plus grosse ville, d'ailleurs remportée en 2020 par une liste citoyenne, la maire sortante arrive en tête au premier tour. Mais donc il faudra aller au second tour, qui va être assez indécis avec 6 listes, rien que ça, qualifiées. Et Saillant, dans la Drôme, qui est un village qui est un peu connu pour être historiquement la première liste municipale à l'avoir remportée, je ne sais même pas si c'est vrai. En tout cas, c'était en 2014 quand même. Bon, eux, ils ont arrêté en 2020, mais c'est à nouveau un collectif citoyen qui est arrivé en tête du premier tour, donc une autre liste citoyenne. En amont de ce premier tour, Fréquence commune, donc qui documente un petit peu cet élan, se félicitait d'un nombre record de listes candidates. Il y a eu 704 listes déposées en 2026, selon le décompte, contre un peu moins de 400 pour l'année 2020. La coopérative, donc Fréquence commune, qui a été fondée en 2020 justement pour accompagner des élus ou des candidats qui ont l'ambition de partager le pouvoir, a calculé que 40% de ces têtes de liste sont des femmes dans les listes citoyennes, alors qu'on n'est qu'à 25% si on prend l'ensemble des listes au niveau national, ce qui est déjà preuve, selon elle, d'une meilleure ouverture démocratique de ces listes. Parmi ces candidatures, toutes n'ont pas bénéficié d'un vent favorable. La liste Grenoble-Alpes Collectif a échoué avec moins de 5%, à 8 voix donc de la barre des 5%, qui lui permettrait d'entrer en discussion avec d'autres listes. Et pareil pour Chambéry, 13% au premier tour, ou Angoulême, 10,75%. Ils ont annoncé donc hier leur retrait en refusant tout accord avec les autres listes de gauche. Voilà pour le gros volet municipal. Et puis petite anecdote aussi sur le traitement médiatique. Saviez-vous ou connaissez-vous le nom de famille de la famille justement qui couvre à peu près les municipales sur presque toutes les chaînes nationales? Et bien c'est la famille Duhamel, puisque vous pouvez avoir sur France 2 le fils Benjamin, le père Patrice sur LCI, la maman Nathalie Saint-Cric sur France Info, et enfin l'oncle dans la famille, je voudrais l'oncle Alain Duhamel, qui lui officie sur BFM TV.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on va aller voir un petit peu, notamment cette info qui est passée discretos. Hein. C'était le 3 mars dernier qu'une brève était notamment reprise par le journal Reporter. L'État ne s'en est pas vanté, hein, puisqu'il a discrètement versé en 2025 100 millions d'euros supplémentaires à Atosca, le concessionnaire de l'autoroute A69 en Bisbille, donc du côté de Toulouse et Castres. Cette information avait été révélée par le média Mediacité Toulouse le 2 mars au soir, un média indépendant qui a eu accès à des documents aussi officiel que confidentiel, écrivait-il. Ces documents, ils portent justement sur des négociations qui ont eu lieu entre l'État et Atosca suite à la décision du tribunal administratif de Toulouse en février 2025 de suspendre le chantier. Cet arrêt du chantier a duré 111 jours. Les travaux ont repris en effet le 18 juin. Eh bien, les documents obtenus par ce journal indiquent que depuis l'arrêt du chantier, et en raison du retard engendré et des problèmes qui sont liés à cet arrêt, il y a eu des négociations, donc très discrètes, vous l'aurez compris, avec l'État pour obtenir un dédommagement envers Atosca et donc un versement supplémentaire de la part de l'État de 100 millions d'euros. Ça fait environ 1 million d'euros par jour d'arrêt du chantier. En ajoutant toutes les diverses aides qui ont été obtenues depuis le début de ce chantier, d'ailleurs, Mediacité a évalué qu'en tout, c'est 252 millions d'euros d'argent public donc, qui auraient été injectés dans ce chantier, ce qui fait 10 fois plus que le coût public estimé au départ. Voilà, le média a tenté de contacter sans succès Atosca ou la préfecture d'Occitanie ou le ministère des Transports, mais visiblement, personne n'était disponible pour répondre au téléphone.
Oh, les rebolles, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Une nouvelle étude scientifique publiée ce 16 mars dans la revue Nature Geoscience confirme que les océans sont largement pollués par nos produits chimiques. Les auteurs de cette étude ont analysé pour ce faire 2315 échantillons d'eau de mer, qu'elles viennent de récifs coralliens, de zones côtières ou de zones en haute mer, situées dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique Nord. Eh bien, 248 produits chimiques différents ont été identifiés dans ces échantillons, On parle de pesticides, de résidus de produits pharmaceutiques, de polluants industriels, etc. Alors en moyenne, ces composés chimiques comptent pour environ 2% de la matière organique dissoute de ces échantillons. Et du côté de littoral, c'est bien pire, c'est là où ça se concentre, hein, puisque la matière organique dissoute des échantillons prélevés près des côtes, elle peut avoir jusqu'à 20% de ces composés, contre environ 1% pour des échantillons pleine mer. Alors même si ces polluants sont présents en moins grande quantité au large, le fait qu'on puisse quand même les détecter dans des lieux si éloignés des activités humaines, hein, on parle du cœur de l'océan Pacifique ou Atlantique, eh bien tout cela suggère que ces composants sont très persistants dans l'environnement, qui ne se désagrègent pas. Et c'est un des résultats donc, de cette étude, même si la compréhension des conséquences hein, de cette contamination, pour le moment, reste très légère, lacunaire même. Les résultats dont on dispose déjà au niveau de la communauté scientifique n'en sont pas moins donc inquiétants, puisque chaque année, l'océan va absorber environ 710 tonnes de pesticides provenant de l'agriculture. Ça, c'est une étude de 2023 dans la revue Nature qui l'avait chiffré. On en retrouve des pesticides jusque dans la chair des baleines et jusqu'à 2500 mètres de profondeur au fond de l'océan Arctique. Et il a déjà été montré que ce cocktail toxique donc de tous ces pesticides va nuire bien évidemment à la reproduction ou au développement et à la santé par exemple des huîtres, des anémones, des poissons et de centaines d'espèces d'étoiles de mer. D'ailleurs, Reporter avait déjà fait un sujet là-dessus.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
De l'air pur, ouais, on sait pas trop à l'heure où reprennent en plus les émissions de charbon à fond avec la guerre. En tout cas, les adolescents britanniques, visiblement, auront plus de mal à fumer des cigarettes, et c'est déjà pas mal, ça sera toujours ça de moins pour eux, puisque le Royaume-Uni a dit stop au tabac pour ces nouvelles générations. C'était la semaine dernière, le lundi 9 mars, que les parlementaires adoptaient un projet de loi interdisant, donc de façon progressive, d'acheter des produits du tabac. C'est pour donc toute personne née après le 1er janvier 2009. Donc si vous calculez, ça leur fera un petit 17 ans. Et ce, à vie hein, d'ailleurs. Sont également prévus un encadrement renforcé sur la vente de cigarettes électroniques, avec des restrictions sur la publicité et la possibilité de réglementer des arômes, ainsi qu'un renforcement des contrôles et sanctions pour lutter contre les ventes illégales. Cette mesure est saluée par Contrefeu et la Ligue contre le cancer, qui appelle d'ailleurs la France à soutenir la proposition de loi similaire qui a été déposée par le député écologiste Nicolas Thierry. C'était en novembre 2025. Le texte donc, proposé en France prévoit d'interdire la vente de tabac en France aux personnes nées après 2014, selon un mécanisme évolutif, hein, à savoir qu'en 2032, les cigarettiers ne pourraient plus vendre leurs produits aux moins de 18 ans, puis au moins de 19 ans, au moins de 20 ans, etc. On vise visiblement une interdiction totale de la cigarette. Bon, bah c'est joli de rêver. Moi, je trouve ça pas mal déjà de proposer des lois dans ce sens-là. En tout cas, elle a été donc acceptée en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon. Entre la proposition de loi déposée donc en France, les chiffres de consommation à la baisse et l'opinion publique qui est favorable à une telle mesure, la France a tous les outils en main pour mettre un terme définitif au désastre humain, social et environnemental que représente l'industrie du tabac. Ça, ce sont les mots optimistes de Marion Cattelin, qui est directrice donc de Contrefeu, l'association qui a déposé ce projet. Alors, pour que la proposition de loi puisse être débattue en France, il faudrait qu'elle récolte au moins 100 signatures de parlementaires. Pour l'instant, ils sont seulement 35 à l'avoir signé. Contrefeu invite donc le grand public à interpeller son élu via une plateforme dédiée qui s'intitule « Votre député est-il toxique ?». Il y a le lien là aussi dans cette brève sur le média Reporter. Donc si vous souhaitez essayer de mettre un petit coup de pouce pour cette proposition de loi contre le tabac, vous pouvez le faire. Allez, on n'y coupe pas, on va prendre un petit peu des nouvelles du front au Moyen-Orient. Donc des dépêches AFP en vrac, une suite pour essayer quand même de maintenir le fil. Tout d'abord, en Iran, Téhéran était sous d'intenses frappes sous d'intenses frappes, tout comme l'Irak, les pays du Golfe et le Liban. On est au 18e jour d'une guerre déclenchée par Israël et les États-Unis, dans laquelle Donald Trump peine à obtenir l'aide militaire de ses alliés. Les cours du pétrole s'envolait de 5% en Asie, plombé par les inquiétudes des marchés face à un conflit qui dégrade les installations énergétiques du Golfe et qui empêche aussi les navires de franchir le stratégique détroit d'Ormuz. Les habitants de la capitale iranienne ont passé une nuit éprouvante marquée par de fortes pluies, des coups de tonnerre et des éclairs zébrant le ciel nocturne sur fond d'intenses bombardements. À Bagdad, donc en Irak, 4 personnes ont été tuées à l'aube par des tirs de missiles dans un quartier huppé qui, selon une source issue des groupes armés pro-Téhéran, hébergeait des conseillers iraniens. L'ambassade des États-Unis, d'ailleurs, de Bagdad a été attaquée 2 fois, à quelques heures d'intervalle, hier et aujourd'hui. Un journaliste de l'AFP a vu la défense anti-aérienne intercepter un projectile et un autre engin lui tomber sur justement l'ambassade, ce qui a provoqué une explosion puis une volute de fumée noire. Un autre projectile est tombé sur le toit d'un hôtel situé dans la même zone verte ultra protégée. Des drones avaient visé en fin de soirée l'un des principaux champs pétroliers du sud de l'Irak, qui est à l'arrêt, et déjà pris pour cible vendredi dernier, le 13 mars. Ainsi, vous le voyez, l'Irak est aspiré dans ce conflit qu'il voulait éviter à tout prix. Les groupes pro-iraniens revendiquent en effet chaque jour des attaques aux drones contre des intérêts états-uniens ou bien des sites pétroliers, et donc ils sont visés en retour par des frappes états-uniennes ou israéliennes, là où ils se cachent donc en Irak. La guerre menace de réduire à néant 2 décennies d'efforts pour établir un Irak pleinement souverain, politiquement uni, économiquement sûr et réintégré au sein du monde arabe. Ça, c'est la vision en tout cas de The Soufan Center à New York, qui est spécialiste des questions de sécurité. Si on s'intéresse aux Émirats Arabes Unis, c'est 1900 frappes qui les ont touchés dans le Golfe. Par exemple, un journaliste de l'AFP entendait plusieurs explosions à Doha suite à l'annonce par les autorités de l'interception d'un missile. Donc, il y en a quand même pas mal qui passent. Une personne a été tuée par la chute de débris de missiles à Abu Dhabi. Donc, le missile a été intercepté, mais il y a quand même des bouts qui tombent. À Dubaï, une alerte diffusée par téléphone recommandait aux habitants de la ville de se mettre immédiatement à l'abri en raison de menaces potentielles de missiles, avec 3 explosions qui ont été entendues. Et la zone industrielle pétrolière de Fujairah, sur la côte est des Émirats Arabes Unis, aussi visée par une nouvelle attaque de drone. Cela a provoqué un incendie, mais sans faire de blessés. Et l'Iran, donc je vous le disais, a tiré plus de 1900 missiles et drones sur les Émirats depuis le début de cet épisode. Les Émirats Arabes Unis sont ciblés plus que tout autre pays par Téhéran depuis le début de la guerre. La République islamique prend spécialement pour cible donc des intérêts américains, états-uniens dans le Golfe, mais aussi des infrastructures civiles, notamment des monuments, des aéroports, des ports et des installations donc pétrolières. Par ailleurs, l'agence maritime britannique UKMTO rapportait qu'un nouveau tanker avait été endommagé par un projectile inconnu alors qu'il était à l'ancre dans le golfe d'Oman, donc à côté du détroit d'Ormuz où on ne passe plus pour le moment. Et quant au Liban, qui est lui aussi aspiré par la guerre depuis le 2 mars, des avions israéliens ont bombardé des quartiers de la banlieue sud de sa capitale. Le Hezbollah pro-iranien, de son côté, affirme avoir attaqué des soldats et des tanks israéliens dans plusieurs villages du sud du pays, près de la frontière justement avec Israël. Alors, comment réagit celui qui est à la tête? Enfin, en tout cas, c'est le président des États-Unis, Donald Trump. Eh bien, visiblement, il ne cachait pas sa frustration face au peu de succès de son appel à ses alliés pour qu'ils participent à la sécurisation du détroit. Il a dit « Nous encourageons vivement les autres pays à s'impliquer avec nous avec beaucoup d'enthousiasme ». Ça, c'était son appel à l'aide hier. Bon, visiblement, Trump n'a pas l'air du tout de savoir où il va. Hein. Il a d'ailleurs lui-même admis, pour une fois, être surpris de la réponse de l'Iran suite à l'attaque du 28 février, en particulier donc de toutes ces frappes qui touchent les pays du Golfe. Il a dit « Personne ne s'y attendait, nous avons été choqués. Les plus grands experts, personne ne pensait qu'ils allaient frapper ». Alors visiblement, les gens qui l'informent ne sont pas les plus grands experts de la question, mais lui n'est pas au courant. En tout cas, pour ce qui est justement de toutes ces installations pétrolières, 1/5 du pétrole brut ou du gaz naturel liquéfié du monde transitait, on doit dire maintenant, par le détroit d'Ormuz. Trump espérait justement l'aide des pays de l'OTAN pour tenter de sécuriser cette passe. Mais pour ce qui est de l'Europe, l'Allemagne et la Grande-Bretagne excluent une opération de l'Alliance Atlantique. Le Japon et l'Australie, des alliés historiques des États-Unis et dans l'OTAN, eux aussi ont écarté pour l'instant l'envoi de navires de guerre. Et enfin, du côté de la Chine, Pékin n'est pas revenu sur la question de la sécurité et de la sécurisation du détroit d'Ormuz. En revanche, la Chine a annoncé l'envoi d'aide humanitaire pour l'Iran, la Jordanie, le Liban et l'Irak. On est toujours dans cette espèce de guerre froide, même peut-être un peu tiède et chaude, hein, entre les États-Unis et la Chine, qui se cristallise donc toujours autour de la question pétrolière. Ouais, le monde en est toujours là. Et puis, vu qu'on parle beaucoup moins d'autres choses, eh ben, on a quand même quelques infos qui nous proviennent de Gaza. C'est dans le courrier international que l'on lit que l'enclave de Gaza est ensevelie sous des montagnes de déchets et fait donc face à une crise sanitaire majeure. Ce sont des millions de tonnes de déchets et de débris qui s'accumulent dans la ville, enfin ce qu'on peut appeler une ville, principalement des routes avec des ruines et donc des tas de poubelles. Et toute la bande de Gaza d'ailleurs est touchée, évidemment dévastée par la guerre, hein, puisque depuis le 7 octobre 2023, la bande de Gaza n'est plus la même. Aux bâtiments détruits sous les bombardements israéliens viennent s'ajouter, dans ce paysage d'apocalypse, d'impressionnantes montagnes de déchets. C'est une vidéo qu'on peut voir qui a été publiée le 12 mars, là ce jeudi, sur la chaîne YouTube du Guardian, le quotidien britannique, qui montre des milliers de sacs poubelles s'empiler sur plusieurs mètres de hauteur tout le long des routes et aux abords des camps de réfugiés. À Gaza, plus de 175 000 tonnes de déchets solides sont donc laissées à l'abandon dans la ville. C'est la porte-parole de la municipalité qui a donné ce chiffre. Elle accuse les autorités israéliennes justement d'empêcher les équipes municipales d'accéder à la principale décharge dans laquelle ils pourraient vider les poubelles. C'est à Jor Hadik, à l'est de la ville. Le résultat, eh bien, c'est que les habitants sont confrontés à cette crise sanitaire sans précédent. On se réveille dans un champ de microbes, expliquait l'un d'eux dans cette vidéo visible sur le site, la chaîne YouTube du Guardian. Un autre habitant affirme avoir des difficultés à dormir à cause de l'odeur nauséabonde et surtout, maintenant qu'il commence à faire chaud, de l'arrivée massive des moustiques et des mouches. Mais le problème des déchets ne se limite pas donc à la ville de Gaza. Dans un article du Jerusalem Post, publié au mois de janvier, on apprenait que 90% du système de collecte des déchets de cette enclave palestinienne a cessé de fonctionner et que 80% des égouts ont été détruits sous les bombardements. N'ayant pas l'endroit où déposer leurs ordures, les gens les brûlent, ce qui produit des fumées et des poussières, explique aussi le quotidien israélien. Cette pratique donc de l'incendie provoque une augmentation de la pollution atmosphérique et donc des problèmes respiratoires chez de nombreux habitants. Selon le PNUE, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, au total, donc l'enclave est jonchée de 68 millions de tonnes de débris en tout genre. Donc les ordures quotidiennes des habitants qui continuent de vivre comme ils peuvent là-dedans, les restes des bâtiments qui ont été détruits, mais aussi bien évidemment des cadavres en décomposition sous les décombres. Puisqu'à ce jour, les corps d'environ 10 000 personnes sont présumés toujours ensevelis sous les décombres. C'est ce qu'affirment en tout cas les autorités sanitaires palestiniennes. Voilà les amis, c'est sur ces tristes nouvelles que l'on se quitte. On va quand même écouter un peu de musique puisque c'était passé peut-être inaperçu. Mais à fin du mois de février dernier, le musicien Willie Colon, un des grands noms de la salsa new-yorkaise, s'est éteint. Et donc on va s'écouter La Murga en hommage donc à Willie Colon, disparu le samedi 21 février dernier. Allez, ciao ciao et on se retrouve jeudi.
Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.